carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bienvenue dans cette émission Carrefour des Arts. Je vous emmène à la demeure du président Thiers, un élégant hôtel particulier de la place Saint-Georges à Paris qui fut reconstruit en 1871. Il est devenu la fondation Don Thiers qui abrite une précieuse bibliothèque consacrée à l'histoire de France du 19e siècle. Je vous emmène en visite en compagnie de l'administrateur Sandrine Arnold-Folpini. Madame Folpini, je vous remercie de recevoir Canal Académie dans ce lieu extraordinaire qui est la Fondation Don Thiers. Pourriez-vous nous rappeler en quelques mots l'histoire de ce bâtiment, mais surtout quelle est la pièce emblématique de la vie de Monsieur Thiers ?
Bonjour, ce bâtiment a été construit entre 1873 et 1875 par l'architecte Alfred Aldroff, à l'emplacement du premier hôtel qui avait été construit dans les années 1830 et acquis par le beau-père de Thiers, Alexis André Daune, promoteur du quartier de la Nouvelle-Athènes. Donc ce bâtiment a été légué par Félicie Daune, belle-sœur de Thiers. Peu de temps avant son décès en 1905, il a été légué à l'Institut de France afin qu'il soit affecté à la création d'une bibliothèque d'histoire moderne et plus particulièrement d'histoire française relative au XIXe siècle. Donc je pense que bien évidemment la pièce emblématique de cet hôtel est la salle de lecture où nous nous trouvons, qui est située à l'emplacement du cabinet de travail de Thiers, où il avait consacré une grande partie de sa vie, ayant rédigé ici toute son anthologie sur l'histoire du consulat et de l'Empire entre 1843 et 1862.
Nous allons dans un petit moment parcourir ce lieu et nous allons donc visiter les pièces emblématiques qui ont vu passer la vie de Monsieur Thiers. Mais comme nous sommes à la bibliothèque, peut-être pourrions-nous parler de cette bibliothèque et avec Madame Biette qui est donc vous êtes en charge de la bibliothèque. Vous êtes donc le conservateur de la bibliothèque.
Cette bibliothèque, comme Madame Folpini le rappelait, a été donnée par Félicie Daune, la sœur cadette de l'épouse d'Adolphe Thiers, qui offrit l'hôtel particulier à l'Institut de France en 1905, un an avant sa mort, pour qu'il soit affecté à la création d'une bibliothèque d'histoire moderne et particulièrement d'histoire de France. C'était ses propres mots. La nouvelle bibliothèque sera considérée comme une annexe de la bibliothèque de l'Institut. Le fonds d'origine contient une partie des documents qui se trouvaient alors dans l'hôtel. La bibliothèque Thiers d'origine héritait d'environ 4600 volumes à caractère historique, des manuscrits très divers, dont on peut sortir deux ensembles, les documents relatifs à l'ancien président de la République, qu'a été Adolphe Thiers, et à l'hôtel de la place Saint-Georges, ainsi qu'un ensemble de manuscrits italiens, notamment sur Florence, puisque Adolphe Thiers voulait rédiger une histoire de Florence qui n'a jamais vu le jour. Par la suite, en 1985, 8000 autres ouvrages qui avaient été donnés un siècle plus tôt par Félicie Daune à la Fondation Thiers, dont Madame Folpini reparlera, ont réintégré la bibliothèque. Ce sont essentiellement des livres des 18e et 19e siècles, avec quelques pièces plus anciennes, toutes portant l'ex-libris d'Adolphe Thiers, avec de nombreuses dédicaces, soit à Adolphe Thiers lui-même, soit à son épouse. Et ce premier ensemble a été considérablement augmenté par la suite, grâce à des dons et des legs. Alors il ne faut pas oublier bien sûr la bibliothèque personnelle de la fondatrice, Félicie Daune, qui était une bibliophile avertie. On conserve 238 volumes en réserve, des classiques latins, des écrivains français du XVIIIe siècle, très très bien reliés par les meilleurs relieurs de l'époque. Alors l'autre grand fonds de cette bibliothèque, c'est le fonds de l'historien Frédéric Masson, qui a intégré la bibliothèque en 1926. C'est un fervent admirateur de Napoléon qui a légué une remarquable collection sur le Premier Empire. Il a été bibliothécaire au ministère des Affaires étrangères et a épousé en 1874 la petite fille d'un ancien conseiller d'État du Premier Empire, ce qui l'a mis en relation avec les principaux membres de la famille impériale et lui a donné accès à des documents très importants pour la rédaction de ses ouvrages. C'était un spécialiste de Napoléon. Élu en 1903 à l'Académie française, dont il deviendra le secrétaire perpétuel en 1919, membre de la commission des bibliothèques, il s'est intéressé tout particulièrement à cette bibliothèque. Il l'a développée et entre 1914 et 1918, il l'a administrée pour l'Institut, l'hôpital auxiliaire qui a été fondé à l'hôtel Thiers. Et à la fin de sa vie, il a décidé de léguer à l'Institut de France, pour être placé à l'hôtel Thiers, l'ensemble de ses collections. ce qui fait que nous avons énormément de choses, des papiers personnels, les notes préparatoires de ces ouvrages, des archives sur l'hôpital, bien sûr, mais également et surtout des documents napoléoniens, qui sont très très variés, vraiment très variés. 70 000 volumes imprimés, 300 cartons de lettres, des rapports, des notes, des récits de guerre, des cartes, des plans, des diplômes, des coupures de presse, enfin quelque chose vraiment très très important, mais également des documents graphiques, c'est-à-dire des dessins, 440, 40 000 estampes, ce qui est un fonds extraordinaire.
Quel type d'estampes ?
Essentiellement sur la période napoléonienne. Alors c'est bien sûr des portraits de l'empereur, mais c'est aussi des caricatures, un fonds énorme de caricatures aussi bien françaises qu'anglaises, allemandes, enfin de l'Europe entière, des tableaux, des objets, alors aussi bien des objets d'art que des objets de vie quotidienne. Prenons Napoléon comme une sorte d'emblème. On a des montres, par exemple, des pipes, des petits bustes, enfin beaucoup, beaucoup de choses que l'on prête. Hein, qui sont,
Cette collection est détachée de les collections de la bibliothèque tiers, puisqu'elles ne sont pas présentées en service public. En revanche, effectivement, elles peuvent être présentées lors de rendez-vous pour des chercheurs. Cette collection est intégralement inventoriée et elle est très très régulièrement présentée à l'occasion des expositions itinérantes, extérieures, des expositions qui sont présentées aussi dans des musées étrangers, dans le cadre des commémorations napoléoniennes. Donc ce fonds vit, il est étudié par les chercheurs et il est présenté au public très largement dans différents lieux dans le monde. Donc c'est un fonds qui est tout à fait complémentaire à la bibliothèque et qui a été légué par Frédéric Masson à l'Institut et particulièrement à la Fondation. Ce qui fait de la Fondation de la bibliothèque un centre de recherche sur le Premier Empire et le Second tout à fait important.
Et rappelons que la bibliothèque donc, est ouverte au public les jeudis et vendredis de midi à 18h. Voilà. Alors, pour continuer sur les richesses de cette bibliothèque, on trouve également, vous me montriez un certain nombre de réserves, puisque vous disiez combien de livres à peu près ?
Alors, en tout, en gros, 130 000 livres, et puis beaucoup de manuscrits, 2000 manuscrits environ, 40 000 estampes, 440 dessins. Là, c'est déjà pas mal.
Ça comble, ça demande beaucoup de place. Comment vous faites pour tout caser ?
Oui, la partie que vous voyez ici, la salle de lecture, ne représente qu'une partie, la partie émergée de l'iceberg. Hein. Nous avons au deuxième étage à peu près 6 salles qui conservent des livres, alors soit des salles de réserve, soit des salles où l'on entrepose des livres plus récents. Au sous-sol, nous avons également des caves, d'ailleurs une demi-douzaine de caves.
Oui, tout à fait, il y en a une. Il y en a 8 exactement, oui, tout à fait. La plupart sont consacrés à la conservation des ouvrages et une grande réserve est consacrée à la conservation des tableaux et de certains objets, des tableaux de la collection Frédéric Masson.
Tout est bien conservé dans les conditions optimales, hein, avec une climatisation adéquate.
Un système de déshumidification, puisque le terrain est très humide, étant donné que le terrain se situe sur la colline descendant de Montmartre, et qu'il y avait énormément de petites rues, et qu'il y a des conditions hygrométriques désastreuses pour la conservation d'archives. Donc un système de déshumidification a été installé il y a une quinzaine d'années et nous permet effectivement de conserver dans les meilleures conditions les ouvrages et certains manuscrits.
Rappelons que cette bibliothèque donc, était à l'origine le cabinet de travail d'Adolphe Thiers. Comment travaillait-il ici ? Enfin, comment est-ce que à l'origine, l'endroit était très différent ?
Je vais dire un mot sur la représentation qu'on peut avoir. Et justement, dans la chambre Thiers, il y a une petite gouache qui est très amusante à ce sujet-là. Étant donné qu'il présente Thiers peut-être d'une façon un peu fantaisiste, mais quoi qu'il en soit, on retrouve un peu l'architecture de la salle de lecture. Donc il est représenté dans son cabinet de travail entouré d'un certain nombre de copies qui sont dispersées à l'école des Beaux-Arts depuis le décès de Madame Thiers, et également au Louvre, puisque Madame et Monsieur Thiers étaient de très grands collectionneurs et que Thiers avait essentiellement pour objectif de réunir les objets faisant partie de présentant l'histoire de l'art occidental et également oriental, puisqu'il était à l'initiative, il était un peu à l'avant-garde, puisqu'il était un des premiers collectionneurs qui s'intéressait à l'Extrême-Orient à partir de 1859. On le représente dans ce cabinet de travail. Il y a effectivement des papiers, mais il y a surtout des copies de l'Hercule Farnèse, de la fresque du Jugement dernier de Michel-Ange, toujours par des contemporains de Thiers. Donc c'est assez amusant parce qu'on a cette vision un peu différente de l'état actuel de la salle de lecture. Ce qui nous rappelle un peu cette présentation partielle de ces collections sont essentiellement quatre pastels qui sont des copies d'après les fresques de la Sixtine et qui sont toujours accrochés dans la salle de lecture.
Alors, avant d'aller visiter la chambre de Don Thiers, Madame Biette, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose sur la bibliothèque
Pour parler un peu des fonds, donc, à part les collections dont je vous ai parlé, la spécialité de la bibliothèque Thiers, c'est le 19e siècle. L'histoire générale, politique, militaire, sociale et administrative de la France de 1789 à 1900, avec quelques éléments sur les questions littéraires et artistiques. On peut citer parmi des fonds qui sortent un peu de l'ordinaire, le fonds Denet, qui comporte des livres, des brochures sur la franc-maçonnerie, des origines jusqu'à 1910, ou bien le fonds Eugène Deschtal, 5 cartons de papier sur les mouvements sociaux de 1830 à 1860 et sur le saint-simonisme, la correspondance de Théophile Gautier-Fils quand il était directeur au Figaro illustré, les papiers du duc de Cazes, ministre des Affaires étrangères de 1873 à 1875, le fonds Jules Claretti aussi, 6000 volumes, histoire et littérature du 19e siècle, etc. Vous voyez donc des fonds à la fois assez divers, mais tous centrés sur le 19e siècle, ce qui fait notre référence, notre spécialité. Il faut peut-être rappeler aussi que la bibliothèque est ouverte au public, certes, mais à condition que les gens soient accrédités par l'Institut. C'est une bibliothèque qui dépend de l'Institut et qui donc pour la consultation, on suit les règles imposées par l'Institut. Donc, c'est ouvert aux académiciens, bien entendu, et à tous les chercheurs ou étudiants qui ont l'agrément de membres de l'Institut.
C'est important de le rappeler. Alors, est-ce que nous pourrions parcourir un peu ce lieu magique et notamment peut-être visiter cette chambre et la salle de lecture également, qui est très très importante. Pourrions-nous aller le visiter ? Dans cette bibliothèque, il y a une architecture assez splendide, notamment au plafond. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce plafond, Madame Folpini ?
Alors, ce plafond, la représentation de la verrière est un quelque peu frustrante dans la mesure où la verrière n'est pas éclairée. Elle est un petit peu opaque puisqu'elle a été le plafond a été recouvert pour des questions de conservation, mais néanmoins on peut se rendre compte du dessin des vitraux qui sont tout à fait dans le style de l'époque de la donation, c'est-à-dire 1905. On retrouve toutes les représentations végétales propres au style du début du XXe siècle. Donc c'est intéressant parce que ça, bien qu'on n'ait pas un éclairage zénital, c'est tout à fait joli à voir et propice à l'étude.
Alors, il nous faut évoquer les perspectives d'avenir pour cette bibliothèque qui n'est pas seulement tournée vers le passé. Il reste beaucoup de travail pour mieux la faire connaître et faire connaître ses collections à l'extérieur. L'urgence absolue est d'informatiser les notices de livres et des manuscrits pour les porter à la connaissance des étudiants et des chercheurs. À cette fin, nous collaborons aux bases Calam et Sudoc. Nous continuons de prêter des livres, des manuscrits, des gravures et des objets pour des expositions en France et à l'étranger. Actuellement, quelques pièces sont présentées à l'Institut du monde arabe au sein de l'exposition Bonaparte et l'Égypte. Et plusieurs fonds de manuscrits sont encore inexplorés ou insuffisamment répertoriés ou catalogués. Nous nous y employons. Ces fonds peuvent faire les délices des chercheurs et alimenter de nombreux travaux universitaires dans les années à venir. C'est donc encore une mine de découvertes à faire, principalement sur l'Empire, mais surtout le XIXe siècle, sur les mouvements sociaux, etc. Même si la principale richesse de cette bibliothèque repose sur les documents originaux, correspondances, manuscrits, nous devons continuer de l'alimenter en acquérant des ouvrages modernes portant sur le XIXe siècle, tout ceci afin de compléter nos collections.
Merci beaucoup, Madame Biette. Madame Folpini, nous sommes au premier étage de la fondation d'Aunetière, qui est l'étage clé de cet endroit. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se décompose l'espace et quelles sont les pièces importantes ?
Alors, l'espace est réparti en trois parties. Initialement, après la reconstruction de l'hôtel, cet étage était divisé en trois appartements, celui de Monsieur Thiers, celui de Madame Thiers et celui de la donatrice Mademoiselle Daune. Actuellement, donc, ce qui était l'appartement de Madame Thiers correspond à une des grandes réserves de la bibliothèque qui était jusque dans les années 80 la salle de lecture, ainsi qu'une autre réserve consacrée à la conservation des estampes du fonds Frédéric Masson. Cet appartement est desservi également par un grand vestibule, une grande galerie où sont accrochées des copies d'après des portraits de Velázquez et une copie de son célèbre œuvre, la reddition de Bréda. Alors, ces copies sont intéressantes au niveau iconographique dans la mesure où elles correspondent à un renouveau de l'intérêt pour la peinture du siècle d'or à l'époque de Mérimée, à l'époque aussi dans les années 30 où Louis-Philippe souhaite ouvrir un musée espagnol à Versailles. Donc, il envoie en mission le baron Taylor en Espagne pour repérer les principales œuvres qui seraient intéressantes pour sa collection. Donc, à cet effet, Thiers suit tout à fait l'intérêt de cette époque, la monarchie de Juillet, et fait reproduire ses œuvres pour sa collection. Thiers donc était à la fois critique d'art quand il est arrivé à Paris, donc il était journaliste, il était de formation évidemment avocat. Il est arrivé à Paris en travaillant pendant 10 ans en tant que journaliste dans les milieux d'opposition au régime de Charles X, et il s'est fait connaître tout particulièrement en tant que critique d'art au salon de 1822, puisqu'il est à l'origine du succès de Delacroix. Puisque Thiers, ayant écrit un très bel article sur la barque de Dante, a fait connaître le jeune Delacroix. Thiers donc était effectivement très intéressé par les arts dès son jeune âge. Il a, en tant que ministre des Travaux publics, été à l'origine également d'un certain nombre de commandes d'État, de commandes de bâtiments, de valorisation de l'Arc de Triomphe, enfin de mise au point d'un certain nombre de grandes commandes publiques. Et également, il a constitué une collection tout à fait impressionnante d'œuvres pour représenter l'histoire de l'art depuis l'époque égyptienne jusqu'à l'époque contemporaine. Il était tout particulièrement intéressé par la Renaissance allemande et italienne. Et sa collection était particulièrement importante au niveau de cette période. Nous pouvons situer donc l'ensemble de la collection a été léguée à la mort de Madame Thiers en 1880 au Louvre, au départ essentiellement au département des objets d'art et d'une façon moindre au département des sculptures. Mais les départements des sculptures conservent deux très beaux bas-reliefs de Verrocchio. En ce qui concerne la collection du Louvre, qui est à conserver au département des objets d'art, elle représente environ 1300 objets. Donc c'est tout à fait considérable et le catalogue a été établi par Charles Blanc, qui connaissait bien Thiers et qui avait mis en place en 1873 le musée des copies qui a été présenté à Paris jusqu'en 1878 et qui effectivement présentait cette collection, essentiellement la collection de Thiers, au public dans cet esprit tout à fait pédagogique de l'époque. Donc nous avons conservé donc somme toute peu d'objets à la fondation, peu d'objets d'art, mais Mademoiselle Dawn a souhaité néanmoins réunir dans ce qui était la chambre de Thiers un certain nombre d'objets ayant trait à l'activité politique de son beau-frère. Sont présentées dans cette chambre des décorations, des très belles reliures qui ont été remises et léguées à Thiers au moment de la libération du territoire et un certain nombre aussi d'objets caractéristiques de son activité.
Dans l'habit d'académicien, la fameuse épée également.
Alors Thiers, rappelons que Thiers était membre de l'Institut, il avait été reçu à l'Académie française en 1834 avec sa première grande œuvre consacrée à la Révolution française qu'il avait écrit à partir de 1827 et plus tard il a été reçu à l'Académie des sciences morales et politiques en 1840.
Il y a cette chambre, il y a également une salle de lecture qui abrite beaucoup de livres aujourd'hui, mais qui était à l'époque, vous pourriez nous expliquer à quoi elle servait à l'époque ?
Elle était le cabinet de travail de Thiers, donc c'est à cet emplacement, dans le premier hôtel, que Thiers a consacré 20 ans de sa vie à rédiger, alors qu'il était retiré de la vie politique, sa grande anthologie en 20 volumes du Consulat et de l'Empire, qui est une œuvre maîtresse, qui présente vraiment et qui est une œuvre maîtresse et essentielle pour l'histoire de l'époque napoléonienne.
Pourriez, Madame Folpini, nous parler de l'architecture rapidement de ce bâtiment. Quand est-ce qu'il a été construit ?
Alors, ce bâtiment a été construit, reconstruit, donc entre 1873 et 1875, avec les indemnités d'État, puisque le premier hôtel qui avait été aménagé par l'architecte Charpentier en 1840, sur l'emplacement d'une maison qui avait été achetée par le beau-père de Thiers Dawn sur des terrains qu'il avait acquis à partir de 1832. Ce premier hôtel était beaucoup plus sobre, beaucoup plus, même peut-être plus petit, bien que les pièces soient plus nombreuses. Il était tout à fait caractéristique de l'architecture de la Nouvelle-Athènes, ce quartier qui a été loti grâce à l'intervention de Dawn à partir de 1824, à partir du moment où Louis XVIII a autorisé le lotissement du quartier, qui était un quartier qui, jusqu'en 1824, était constitué de grands domaines. Donc la population de Paris ayant énormément évolué, donc il y avait nécessité, après le lotissement du 10e sous le directoire, de lotir ce quartier au nord de la chaussée d'Antin, qui est devenu donc à partir de 1824 ce qu'on a appelé le quartier La Nouvelle-Athènes. La Nouvelle-Athènes dans la mesure où il avait été loti par des architectes formés vraiment au goût antique. Et au goût antique et au goût de la Renaissance, évidemment.
Alors aujourd'hui, la fondation est active, hein, ça ne se voit pas forcément puisque ce n'est pas public en tant que tel. La bibliothèque, bien sûr, fonctionne les jeudis et vendredis, mais en dehors de ça, vous organisez aussi des manifestations, des événements ?
Oui, tout à fait. Alors nous mettons à disposition les salons régulièrement à des entreprises, à des particuliers, pour l'organisation également d'expositions, l'organisation de concerts, donc toujours en partenariat pour la programmation avec ce qui représente le patrimoine de l'hôtel, c'est-à-dire toujours orienté sur l'étude du 19e siècle. Nous accueillons un certain nombre de concerts dans cet hôtel, dans ce quartier qui était le quartier où a vécu Chopin. Nous avons un cycle de concerts de littérature pianistique et bien évidemment de littérature propre à côté de la musique. Nous avons aussi également en programmation une série de concerts de pianoforte, toujours avec l'appui de conférences et musique pour présenter les œuvres musicales. Nous avons également programmé pour la fin de l'année une très belle exposition d'une artiste contemporaine qui présentera donc une série de monotypes qu'elle a justement réalisé étant inspirée par l'opus 132 de Beethoven dans l'interprétation du quatuor Isaïe. Donc ça, c'est tout à fait remarquable et intéressant dans la mesure où on arrive à avoir effectivement une liaison entre une artiste contemporaine qui utilise la technique les plus contemporaines, mais qui est inspirée par le patrimoine qui nous intéresse.
Merci beaucoup, Madame Folpini. C'était donc Carrefour des Arts avec la demeure du président Thiers, un élégant hôtel de la place Saint-Georges à Paris, qui est devenu la fondation Don Thiers, un lieu de l'Institut de France à Paris qui abrite une précieuse bibliothèque consacrée à l'histoire de France du XIXe siècle.